Le magazine que vous écoutez est une rediffusion.
Littérature sans frontières.
Une terre, un auteur.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Du 7 avril à la mi-juillet 1994, plus de 800 000 personnes sont mortes, assassinées au Rwanda. Des victimes en majorité tutsis. Ce génocide brutal, violent, fulgurant de moins de 3 mois laisse des cicatrices indélébiles dans ce peuple fracturé par cette guerre civile qui a opposé deux de ses ethnies, Hutu et Tutsi donc. 27 ans après, personne n'a oublié, ni les survivants, ni les témoins, mais pour autant peu ont raconté ce qu'il ou elle avait enduré. Et le silence est encore plus grand concernant les rares qui ont protesté, résisté à cette folie meurtrière en aidant les autres au péril de leur vie. Bonjour Jean Hatzfeld.
Bonjour.
Ce pays, ce génocide, vous les connaissez bien, vous qui comme journaliste d'abord, puis comme écrivain, avez consacré plusieurs années et plusieurs livres à cette histoire autant singulière qu'universelle. Et ainsi depuis « Dans le nu de la vie » en 2001, suivi d'une saison de « Machette »,« La stratégie des antilopes »,« Anglebert des collines »,« Un papa de sang » jusqu'à aujourd'hui « Là où tout se tait », publié chez Gallimard. Ce sont 6 volumes qui reviennent sous différents angles sur ce qu'ont traversé les Rwandais. Avec ici un angle très précis, raconter comment une poignée d'hommes et de femmes a fait le choix, délibéré ou inconscient, de sauver l'autre, son voisin, sa femme, ses amis, des enfants, quand l'injonction générale était de les tuer. Est-ce que vous diriez, Jean Hatzfeld, que ces paroles que vous avez recueillies auprès d'une vingtaine de témoins, essentiellement sur les collines de Nyamata, ne se sont libérés que très récemment et qu'avant les bouches étaient closes?
Les bouches sont toujours closes. Il a fallu pour les libérer que je fasse un peu le forcing. Ce qui a joué en ma faveur, c'est qu'ils me connaissent, c'est qu'ils me voient depuis longtemps, c'est que je finis toujours par, avec une bonne bière, etc., les convaincre. Mais c'est vrai que ce sont des personnes silencieuses qui sont gênées, qui créent la gêne autour d'eux, dont la parole est tue. Il y a une personne, par exemple, une paysanne, une cultivatrice, Wizé, qui dit cette histoire des 3 Tutsis, donc 3 Tutsis qu'elle a sauvés, je les tue en mon fort intérieur parce qu'elle m'apeurait. Ces gens-là sont apeurés par ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire c'est très très paradoxal qu'une personne qui a sauvé au risque de sa vie, parce que c'est vraiment au risque de sa vie, elle a sauvé 3 Tutsis et que ça lui fait peur de tous côtés. C'est extraordinaire, donc ce sont des personnes rares, d'autant plus rares que une partie d'entre elles ont été tuées immédiatement. Ce sont quasiment les premières personnes qui sont tuées dans les premiers jours du génocide, parce que c'était un génocide où tout le monde devait participer, devait adhérer plus ou moins, mais c'était vraiment plus ou moins. Il y en a qui tuaient avec beaucoup d'enthousiasme, qui étaient très sanguinaires, d'autres qui n'étaient pas très chauds pour tuer, qui traînaient par derrière, sans toutefois mouiller la machette, selon l'expression, qui étaient récalcitrants, ça ne leur disait rien pour des raisons X ou Y. Donc, on pouvait participer et adhérer de 1000 façons, mais on ne pouvait pas s'opposer. S'opposer, c'était la mort, normalement. On ne voulait pas de gens qui disent non, vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites là, etc. Et des gens qui sauvent. Donc beaucoup ont été tués vite, donc ça fait du silence, puisqu'ils ne parlent pas. Et leur personnalité est d'autant plus silencieuse que les gens autour d'eux rechignent à en parler. Il y a toujours ce doute. Il y a du côté de la communauté Tutsi ce soupçon permanent, c'est-à-dire... Ils ne pensent pas qu'il puisse y avoir réellement eu des Hutus irréprochables et héroïques. Ils ne le pensent pas, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont sauvé en tuant. C'est-à-dire qu'on fait les deux. Ça s'est fait beaucoup. Ils allaient tuer avec tout le monde et sauver des gens par ailleurs. Ils sauvaient des amis ou des voisins ou des gens de la famille. Et le matin, ils allaient tuer dans les marais. Donc des gens qui n'ont pas du tout tué, qui ont sauvé, il n'y a pas beaucoup. Ils ne le croient pas beaucoup, les Tutsis. Et du côté des Hutus, il y a toujours cette... D'une part, le soupçon de trahison. Ils ont trahi la communauté. Même si c'était pour le bien, ils ont quand même trahi la communauté. Et puis d'autre part, il y a quelque chose qui les gêne beaucoup. C'est que ces gens... surtout ceux qui ont survécu, les vivants, les Hutus, juste vivants, ils représentent leurs mensonges, parce que, si vous voulez, dans la défense du Hutu, il y a toujours cette idée, on était obligé. C'est le fameux « j'étais obligé » de Eichmann à Jérusalem, c'est de dire, on était un maillon de la machine, on était obligé, on était un rouage, on est quasiment des victimes d'une machine sanguinaire. Et eux, quand ils s'opposent, ils montrent que c'est pas vrai. Ils montrent, non, on avait le choix, on pouvait ne pas tuer et on pouvait sauver. On risquait beaucoup, mais on pouvait quand même. Et donc, ils incarnent pour les Hutus le mensonge, ce qu'ils n'ont pas été.
Donc une situation en effet très compliquée, d'où la nécessité d'une enquête presque que vous faites, Jean Hatzfeld, en rencontrant à chaque fois plusieurs personnes pour recouper les témoignages des gens chez qui vous allez, avec qui vous buvez une bière, vous les enregistrez, ensuite vous allez retranscrire leurs témoignages, et on parlera de la langue un peu plus tard parce que c'est absolument magnifique. Et ce livre met au grand jour donc ce courage, cette gentillesse, cette humanité tout simplement, des gens, la bonté, pour reprendre cette citation de Guillaume Apollinaire que vous mettez en exergue et qui donne son titre à votre livre, ouvrez les guillemets, « Nous voulons explorer la bonté, contrée énorme où tout se tait ». Comme si, en effet, cette bonté était un sujet tabou, malheureusement, même 27 ans après les événements aujourd'hui au Rwanda. Et vous commencez donc par cette histoire de Isidore Mahondago. Pourquoi lui ? En quoi cette histoire est-elle emblématique ? Racontez-nous, Jean Hatzfeld.
D'abord, Isidore, je connais son histoire depuis longtemps. Je l'avais mentionné en quelques lignes dans un livre en 2003 et j'étais passé. Je m'en voulais un petit peu de cela aussi, c'est-à-dire que j'accuse un peu les gens de se taire, d'être de mauvaise foi, d'être récalcitrant à parler. Moi, j'ai pas fait assez d'efforts non plus. Je le reconnais, hein, si vous voulez, d'une certaine manière, pendant toutes ces années, je suis passé un peu de l'un à l'autre, c'est-à-dire des tueurs, aux survivants des tueurs, aux survivants. Et ces gens-là, ils sont entre les deux. C'est-à-dire, ils sont ni tueurs, ni survivants. Ils sont Hutus remarquables. Ils sont très peu, ils parlent pas beaucoup. Et je les ai négligés. J'ai négligé Isidore. J'étais passé devant sa maison. Je la voyais vide. Je posais des questions. On me disait comme ça. Je disais, on verra plus tard. Et un jour, quand même, je me suis senti à mon tour gêné de cela. C'est-à-dire, à mon tour, je me suis senti gêné de mon silence, de pas avoir fait plus d'efforts jusqu'à présent. Et c'est là que je commence à essayer de parler autour d'Isidore. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que personne ne se souvenait, évidemment. En plus, son épouse était décédée. En plus, son fils est en prison. Il y avait beaucoup de difficultés. Et finalement, j'ai trouvé deux personnes que je connais bien parce qu'elles avaient participé à de mes livres, qu'ils connaissaient bien, notamment Jean-Baptiste l'instituteur, qu'il connaissait très bien, ils ont le même âge, etc. Et là, je l'ai un peu brusqué, j'ai dit, écoute, Jean-Baptiste, ça suffit, on peut pas continuer comme ça, c'est honteux de laisser cette personne de côté, dans l'oubli, parce que cette personne n'est pas seulement oubliée dans les mémoires, il n'y a plus aucune trace d'elle sur vie, elle n'a pas de tombe au cimetière, son nom n'est pas sur les mémoriaux, elle n'est pas citée, tous les ans, il y a une petite cérémonie de commémoration au moment du 7 avril, elle n'est jamais citée, elle est effacée de tout, son cadavre a été laissé dehors, a été mangé par les bêtes, il n'y a plus de trace de rien de lui, c'est pas admissible, même 25 ans après, ça vaut le coup de l'enterrer, ça vaut le coup de mettre son nom quelque part, de dire Isidore Mahondago a existé, voilà ce qu'il a fait.
Et qu'a-t-il fait de si remarquable donc ?
Alors ce qu'il a fait de remarquable, il est allé à deux reprises, donc il a sauvé personne, lui, contrairement à ceux qui suivent, mais à deux reprises, il est allé voir les tueurs et il s'est opposé. Donc, une première fois, quand il a su qu'il y avait un meurtre, ça a commencé par deux ou trois meurtres sur la colline de Kibungo, ça n'a pas commencé par des tueries très brutales au début, parce que, si vous voulez, entre les tueries de Kigali qui commencent le 7 avril au matin, dans la nuit du 6 ou 7, après l'assassinat d'Abiyarimana, et les tueries à la campagne, il y a eu quelquefois un, deux ou trois jours d'hésitation. Ils ont un peu hésité. Donc, dans la région du Bouguessera, ils ont hésité trois jours. Ils ont commencé à tuer vers le 11 avril à 11h, d'ailleurs, très précisément. Mais donc, il y a eu quand même deux ou trois assassinats pour voir, comme ça, une personne a été tuée pas très loin de chez lui, et il est allé voir les tueurs, il a dit, c'est scandaleux, vous êtes honteux, etc. Et puis après, il y a eu le 15 avril, donc, au moment des grandes tueries, toute une expédition massive de gens qui venaient de tous horizons pour venir tuer dans une église où s'étaient réfugiées 5000 personnes, donc l'église de Kibungo, de Nyatarama, mais Kibungo, c'est à côté, et il montait en expédition en chantant avec les machettes, etc., pour tuer 5000 personnes. Et il s'est mis devant et il a dit « Vous n'allez pas tuer, vous êtes fous ». Il a eu des mots très durs, etc. Et une première fois, on lui a dit « Toi le vieux, toi l'ancien, mets-toi de côté ça ». Il a dit « Non, je ne bougerai pas, vous n'allez pas tuer, c'est honteux, ce sont nos frères, ce sont nos voisins, ce sont… » Lui, il se sentait assez fort. Parce que c'est un ancien aussi, il y a toujours un respect de l'ancien, l'Afrique. Et donc il se sentait comme un sage, c'est un sage, c'était une personne qu'on aimait beaucoup, qui était très respectée. Il a pensé que ça allait suffire et il a reçu un coup de hache sur la tête et il est mort.
Parfois les sauveurs agissent par réflexe, puisque ici Isidore était bien Hutu et c'est le réflexe humanitaire qui le fait agir. Par amitié et puis d'autres par amour, c'est le cas d'Edith et Eustache qui vont rester soudés malgré tout puisque elle est Tutsi et lui Hutu. Et néanmoins, cette guerre ne va pas ni les séparer, ni les faire se retourner l'un contre l'autre.
Voilà, donc là c'est vraiment très héroïque aussi de la part de Eustache parce qu'il a sa femme et ses enfants donc qui sont Tutsi et puis il accueille ses belles-sœurs. Et les enfants de sa belle-sœur. Donc, ils sont toute une tribu de femmes et de filles dans cette maison. Et lui, le seul homme Hutu. Et sa maison est à Nyamata, donc un peu au centre-ville. C'est l'ancien chef de poste, l'ancien postier du village de Nyamata. Et tous les jours, il va être menacé. Tous les jours, il y a des gens qui vont passer devant sa maison en disant « Donne-nous ton épouse, donne-nous ton épouse, on veut tuer ton épouse, donne-nous ton épouse, on va venir la chercher. » Donc une première fois, il arrive à payer, une deuxième fois, il arrive à payer, parce qu'en payant, il arrive à éloigner les tueurs, à retarder. Et puis, finalement, ils vivent, ils vont finir par vivre dans un espèce de ghetto-bunker, une maison assiégée où plus personne ne sort. Il y a que lui qui peut sortir pour aller faire quelques courses, avec la menace de la mort qui pèse tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit. Donc ils vont vivre comme cela, avec quand même cette idée qu'exprime à un moment donné Edith, qu'elle a un doute, parce qu'elle sait que son mari peut à tout moment la lâcher pour sauver sa vie à lui. Edith a peur pour ses enfants, elle a peur pour elle-même et ses belles-sœurs, mais pas seulement des tueurs, elle a aussi peur de son mari, elle n'est pas complètement sûre de son mari, parce qu'on a vu quand même beaucoup de maris Tutsi qui, sans livrer leur épouse, mais les ont lâchés, enfin, c'est pour sauver leur vie, quoi. Et donc, il va y avoir cette vie extraordinaire par le fait qu'à la fin, le dernier jour des tueries, le FPA arrive, toute la communauté Hutu s'en va. C'est un exode massif vers le Congo. Tous les Hutus s'en vont. Évidemment, Eustache a peur. Il a peur parce qu'il dit ben, « Comment je pourrais prouver que j'ai pas tué ?» Dans la folie des tueries, tout ça. Il s'en va. Il s'en va avec trois de ses enfants. Il s'en va au Congo. Et puis, il s'arrête en chemin chez sa mère, finalement. Il y a Kigongoro, il voit sa mère, il lui dit bonjour et il reste là. Et donc, après les tueries, le pays est détruit, en friche, dévasté, ravagé. Et Edith va partir à la recherche de son mari. Ouais. C'est-à-dire qu'une femme toute seule, sans même un baluchon de toilette, elle va partir sur les routes où il y a des morts, des plus rien, etc. Et elle va marcher à pied jusqu'à Kigongoro pour aller récupérer son mari et lui dire « Je te ramène à la maison ». Et elle va le ramener. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour en deux temps qui est magnifique.
Ouais. C'est effectivement une histoire remarquable, extraordinaire même, qui est au cœur de ce conflit. Comment résister à ce génocide? Eh bien, par amour, même si évidemment c'était un chaos. Et d'ailleurs, Edith dit des choses terribles que vous avez notées, Jean Hatzfeld. Aujourd'hui, les vrais mots échappent aux lèvres pour en parler. On les retient, on ne les trouve pas. Est-ce que c'est votre mission, vous, Jean Hatzfeld, précisément de trouver les mots et de retranscrire cette parole?
Voilà, c'est mon travail. C'est un travail que j'ai appris à faire au fil des années, parce que c'est un travail nouveau qui ressemblait pas du tout à mon précédent travail de journaliste, de reporter. Et donc, convaincu que l'indicible n'existait pas et qu'on peut tout dire, même si c'est difficile de dire, j'ai appris d'abord à poser des questions, c'est-à-dire à beaucoup travailler avant de les poser, pour avoir des questions, et puis à essayer de convaincre. Par exemple, Edith, c'est un très bon exemple. Edith, je la connais depuis longtemps. parce que je connais Stache depuis le premier jour, puisqu'il tenait le téléphone public de Nyamata. Et il parle très bien français, un très beau français. Et donc, je connaissais bien Edith, et Edith s'était refusée de parler jusqu'à il y a 2 ans. Parce que justement, elle savait pas comment elle pourrait raconter cette histoire, elle savait pas comment aborder cette histoire du trou et de sa belle-sœur qui est jetée dedans, toute nue, et qui va s'en sortir. Elle trouvait pas les mots pour ça, elle pensait que c'était inimaginable d'essayer de raconter à un étranger cela. Et donc c'est moi, voilà, qui j'ai eu un peu de mal, pas tant que ça d'ailleurs, parce qu'en fait je suis un peu malin, maintenant j'arrive à trouver des moyens. Je lui ai dit, écoute Edith, tu veux pas parler, c'est pas très grave, moi je vais parler avec Eustache. Et donc, je suis allé au cabaret avec Eustache, comme ça, et puis au bout de 2 heures, Edith est arrivée par derrière pour savoir ce que disait son mari. Elle s'est assise, elle a pris une bière, et elle s'est mise à parler, et après, on s'est vu plusieurs fois, elle a parlé. Il fallait quelque chose, il fallait qu'elle soit un peu en confiance, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui.
Et donc, faire sortir les souvenirs par la parole, par l'écriture, par les livres, en tout cas, sortir du silence. Et peut-être comme Valérie Niraru-Dodo, Hutu, infirmière et sage-femme à la maternité Sainte-Marthe, qui a assisté au massacre des mères et des bébés par les Hutu, qui elle écoute Bach. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec Jean Hatzfeld, avec qui nous parlons de ce nouveau livre intitulé « Là où tout se tait », qui donne la parole aux survivants du génocide du Rwanda et qui, 27 ans après, recueille aussi les témoignages de celles et ceux, on l'a dit, qui, même rares, ont résisté aux tueurs et sauvé des femmes, des hommes, des enfants, et qui là sont donc désignés juste comme pendant la Seconde Guerre mondiale, ces personnes qui ont sauvé les Juifs, même si les circonstances ici, bien entendu, sont différentes, ne serait-ce qu'en termes de temps, 3 mois versus 6 ans. Qu'est-ce qu'un juste au Rwanda, Jean Hatzfeld ?
Alors, il y a 2 sortes de justes. Il y a le juste officiel, c'est-à-dire la définition de l'État rwandais du juste. Et puis il y a le juste Jean Hatzfeld, qui est tout autre, parce que je n'ai pas la même définition qu'eux. Donc la définition de l'État rwandais, un juste est quelqu'un qui est irréprochable, donc qui n'est pas mouillé dans les tueries, qui n'a pas tué, qui a aidé des Tutsis sans contrepartie, donc ça ressemble un petit peu au juste de Yad Vashem, israélien, mais qui, par la suite, développe une activité, une énergie, une volonté dans la politique de réconciliation, c'est-à-dire qui participe activement aux réunions de réconciliation, de commémoration, de témoignages, de récits, etc. Son activité après le génocide est très importante. Moi, ma définition du juste, c'est quelqu'un qui a sauvé des Tutsis sans contrepartie pendant le génocide, quoi qu'il fasse après, mais complètement égal. C'est-à-dire, par exemple, il est mort. Par exemple, pour l'État rwandais, quelqu'un qui est mort comme Isidore ou comme Marcel ou comme Martienne, etc., ne peuvent pas être des justes puisqu'ils sont morts. Ils ne peuvent pas participer à la politique de réconciliation. Pour moi, un mort peut être juste. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui refuse de participer à cette politique de réconciliation, parce qu'il n'est pas intéressé de cela, reste injuste pour moi. C'est-à-dire, je m'arrête à ce qu'il a fait pendant la période des tueries uniquement. Donc moi, l'après-génocide ne m'intéresse pas.
Voilà. Donc en ce qui vous concerne, Jean Hatzfeld, il y a beaucoup plus que les 34 justes officiels reconnus par l'État rwandais. Ils sont beaucoup plus nombreux.
Ils sont beaucoup plus nombreux, si
je vous entends bien.
Ils sont rares, vous l'avez souligné, et la raison elle est simple, et vous l'avez bien souligné aussi, à cause de la brièveté des tueries. Il faut savoir par exemple qu'à Nyamata, les tueries n'ont duré que 7 semaines. En 7 semaines, ils ont tué 50 des 58 000 Tutsis. Donc c'est extrêmement violent. Exception de Hiroshima-Nagasaki, où on a tué 400 000 personnes en une fraction de seconde, nulle part dans l'histoire de l'humanité, on l'a tué avec une telle efficacité. Même la machine nazie entre août et novembre 1942, même la terreur soviétique dans les années 37 ou 33, même Katyn, etc., des grands massacres, etc., ne sont arrivés à une telle efficacité, alors que c'est quasiment la machine à tuer la plus rustique qu'on puisse imaginer, puisque c'est à la machette, avec des haches, des faux, des trucs pointus, quoi. Je veux dire, il n'y a pas des mitrailleuses, des chambres à gaz, des trains, etc. Donc, voilà, c'est violence, d'une brutalité, surtout d'une brièveté qui, comme vous l'avez bien dit, a empêché les gens de prendre un peu de recul, de s'organiser, de se tâter, de trouver du courage ensemble, d'essayer de trouver un chemin pour savoir si on peut pas les conduire vers dehors, de savoir si on peut pas trouver une grange, etc. Ça allait trop vite. Donc c'était trop brusque, trop brutal pour pouvoir envisager les réseaux de justes qu'on a pu connaître entre 40 et 45.
Après donc des années de chape de silence, de plomb, de sidération, donc les langues commencent à se délier, non seulement pour raconter les atrocités en elles-mêmes, mais aussi pour dire qu'il y a eu quelques instants de lumière, j'ai envie de dire, dans ce chaudron. Et dans ce processus de reconstruction du pays, et d'ailleurs c'est l'objet de la deuxième partie de votre livre aussi, Jean Hatzfeld, les témoignages sur l'après, le retour des exilés, les criminels qui reviennent, il y a toutes ces opérations d'ouverture des fosses où donc ont été jetés ces corps, parfois encore vivants. Et là aussi, on a l'impression, en vous lisant, Jean Hatzfeld, qu'avec la narration purement des meurtres, sortir les ossements, ça fait aussi partie de la nécessité du deuil et de la possibilité d'une réconciliation.
Alors, moi, je suis un petit peu plus prudent que vous sur l'idée de la réconciliation.
Mais faire son deuil, oui.
Ah oui, oui, non, faire son deuil, oui. Si vous voulez, on n'imagine pas, je ne l'avais pas imaginé personnellement, mais après quand j'ai été mis devant le fait accompli, devant la réalité, j'ai compris, c'est très très insupportable et douloureux pour une personne, qui que ce soit d'ailleurs, de ne pas savoir comment est mort la personne aimée, comment elle est morte, dans quelles conditions, si possible par qui, si elle a été tuée, et où elle se trouve maintenant pour pouvoir l'enterrer. Déjà, parce qu'il y a, pendant des années, il y a un doute. Moi, je donne l'exemple, par exemple, d'Innocent Ruiliza. Donc, sa femme et son enfant sont morts dans l'église. Il n'a jamais su comment. Et il a, pendant des années, sursauté quand il a entendu une personne qui avait la voix de son épouse, par exemple. Et il se retournait, ou dans la rue, il voit quelqu'un qui a un peu la même démarche. Parce que on a beau dire, oui, je sais qu'elle est morte, c'est pas possible qu'elle ait survécu, on a toujours un petit peu ce doute. Mais indépendamment même de ce doute, on veut, à un moment donné, pouvoir prendre les restes, ce qu'il en reste, et des votes dits enveloppés de gentillesse. Ouais, on veut envelopper de gentillesse, c'est-à-dire nettoyer les restes, les envelopper dans une étoffe propre et faire une petite cérémonie de recueillement. On veut cela pour son enfant, on veut cela pour son époux, pour son épouse, on veut cela. On ne peut pas accepter l'idée qu'ils pourrissent quelque part, que les chiens les ont mangés, que c'est très difficile. Donc, ça explique aussi, on en parlait au début de l'émission, pourquoi les Tutsis sont aussi récalcitrants à accepter le dialogue avec les Hutus. C'est parce qu'ils demandent ça en préalable. J'ai eu plusieurs exemples comme ça. Par exemple, quelqu'un qui est venu dans la cour, j'étais avec Marie-Louise, il dit « Marie-Louise, je viens te demander pardon pour ton mari, je sais que tu m'en veux, mais pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. » Et elle lui répond « Où ? Qui ? » Et l'autre, je peux pas le dire. Tu peux pas le dire, tu sors. Tant que tu diras pas, c'est même pas la peine. Donc, on peut parler de tas de choses. On peut aller au marché. On peut. Enfin, il y a la vie sociale a repris. Mais pour le reste, non. La réconciliation passe par là. Comment travailler avec ce silence ? Comment travailler avec cette gêne ? Comment travailler ? Voilà. C'est comme ça que je fais, quoi. C'est pour essayer de faire de la littérature à partir de là, quoi.
Et dans ce chaos, trouver ces quelques exceptions dont on ne parle pas.
Alors là, c'était le sixième livre, c'était cela, voilà.
Et tout cela, vous recueillez, Jean Hatzfeld, des témoignages, la plupart dans une langue française extraordinaire, qui ici est restituée avec beaucoup de fidélité, puisqu'on entend des expressions qui sont purement rwandaises, où on ne dit pas « il a tué ma sœur », mais « il a coupé ma sœur », parce qu'évidemment, dans le verbe « couper », il y a déjà « machette » et « mort », et toute une succession comme ça de métaphores qui sont extraordinaires à découvrir. C'est aussi un plaisir pour vous.
Ah, c'est un énorme plaisir. Mais vous savez, moi, je fais ce livre, tous ces livres, je les ai faits avec plaisir. C'est-à-dire, quelquefois, c'est très difficile, parce qu'on, quelquefois, on franchit des lignes jaunes, on va un peu trop loin, etc. Mais il y a le plaisir. Alors, il y a le plaisir. Quelquefois, je me demande, je devrais pas le dire, parce que c'est un petit peu gênant de le dire, mais je me demande si cette langue n'avait pas été aussi belle, est-ce que je l'aurais été aussi obstiné? J'en suis pas sûr. C'est-à-dire que la première fois que je vais dans ce village à Nyamata, avec l'idée du premier livre, j'avais aucune idée des livres suivants. Je voulais faire juste le premier livre. Et je tombe sur Sylvie Oumoubiéi, qui parle un très très beau français, avec beaucoup de métaphores, avec des images, comme vous voulez souligner, beaucoup d'images, avec quelques expressions un peu vieillottes, qui datent du 19e siècle, avec quelques belgismes, avec quelques phrases aussi qui sont héritées de l'enseignement jésuite, avec tout cela mêlé. C'est d'une telle beauté que, oui, ça rajoute du plaisir au plaisir. C'est-à-dire, moi, si vous voulez, je pose des questions, j'enregistre, je décrypte, j'écoute. Ça suscite des nouvelles questions, je retourne, je revois des gens. C'est des allers-retours permanents. Mais ces allers-retours, ils sont quand même beaucoup facilités par le plaisir que j'ai à écouter ça, à travailler ce matériau, parce qu'en fait, c'est du matériau. Et après, je façonne des histoires avec ce matériau, mais le matériau est exceptionnel, quoi. C'est sûr.
Comme votre œuvre. Merci beaucoup, Jean Hatzfeld, d'être venu nous parler de ce nouveau travail, de ce nouveau récit, de ces témoignages dans ce livre qui s'intitule « Là où tout se tait ». Et d'ailleurs, je précise bien, c'est « Là où tout se tait ». Parce qu'on pourrait entendre « Là où tout se tait », décidément, hein, jusque dans les mots, jusque dans le titre. Ouais. Donc un livre aussi remarquable que les précédents et qui vient donner un nouvel éclairage sur cette histoire qu'il ne faut pas oublier, l'histoire du Rwanda, et le livre apparu aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.
C'est moi qui remercie beaucoup.